Emmanuel Rist, le tueur néo-nazi de Colmar. Le 20 juin 2011, le troisième et dernier procès d'Emmanuel Rist démarre à la cour d'assises de Colmar. Cette fois-ci, il est seul dans le box des accusés. Il est représenté par maître Renaud Betcher. La famille de Mohamed Mazzini, le marchand ambulant de tapis assassiné, est défendue par maître Anouk Levenadel. La culpabilité de Rist n'est plus à prouver, compte tenu de l'ensemble des éléments à charge. Le but pour son avocat est d'essayer de minimiser sa peine, mais surtout de prouver que le meurtre n'était pas prémédité. Pour ce crime, Emmanuel Rist encourt la perpétuité. Pour ce procès, qui s'est déroulé près de 10 ans après les faits, la cour reçoit 25 témoins et 5 experts. Les différents témoignages et les aveux du néo-nazi permettent une reconstitution quasi fidèle des faits. Le jour du meurtre, les deux marchands de tapis marocains garent leur voiture devant la mairie de Gundelsheim. Au même moment, Emmanuel Rist passe devant la mairie avec sa Golf et aperçoit Mazzini devant l'entrée d'une des premières maisons de sa tournée. Rist tempête contre la présence d'un maghrébin, il ne supporte pas l'en croiser. Il quitte le village, longe le cimetière à la sortie de la ville et fait demi-tour pour se garer à l'angle de la rue du château, pour attendre celui qu'il considère comme un intrus. C'est à ce moment-là qu'un témoin voit Rist passer devant sa fenêtre une première fois. Il repassera devant une seconde fois après le meurtre. Emmanuel remonte jusqu'en haut de la rue du château. Il s'engage dans une impasse, fait marche arrière, dissimule son véhicule en haut de la rue. Derrière lui, la rue du château se termine par un portail d'habitation. Il attend, un peu en retrait, que Mohamed arrive à sa hauteur. Aux alentours de 12h30, le vendeur de tapis sonne à sa dernière porte. Lorsqu'il repart, il croise le regard de Rist. Celui-ci lui ordonne de quitter immédiatement les lieux qu'il désigne comme une zone germanique. Mazzini part, puis se retourne et crache en direction de son tueur. Rist est armé de son pistolet. Se sentant agressé, selon ses propos en cour d'assises, il tire et atteint Mazzini dans le dos, derrière la nuque, avant de prendre la fuite. L'avocate de la partie civile émet de gros doutes sur le déroulé des faits décrits par Rist. Mohamed Mazzini n'avait aucun intérêt à essayer d'affronter cet homme au regard menaçant. De plus, l'endroit de l'impact de la balle dément le fait que Mazzini se soit retourné. Rist explique qu'au moment de tirer, sa victime était en train de se contorsionner. L'explication est plus que douteuse. L'avocat d'Emmanuel Rist axe sa défense sur des traumatismes de son client qui remontent à sa petite enfance. Ceux d'un père souvent absent, d'une mère distante. Lorsqu'il est né, les médecins n'avaient pas de grands espoirs quant à ses chances de survie. Les docteurs auraient dit à ses parents d'éviter de s'attacher à sa présence, car leur fils aurait pu mourir à tout moment, selon eux, en tant que grand prématuré. Pour la première fois depuis le début du procès, Rist, toujours très droit et sûr de lui, fond en larmes. Il paraît sincèrement ému et se sent profondément blessé parce que, pour ses parents, il était déjà mort. Il affirme à l'audience qu'aujourd'hui, cette idéologie lui paraît absurde. Il la récuse et il dit ne plus être persuadé comme avant par les théories nazies. L'avocate de la partie civile, celle de la famille Mazzini, y voit là une tentative d'attiser la pitié du jury et de la cour d'assises. Selon l'expert, Emmanuel Rist présente un portrait psychologique complexe. Son admiration idéalisée envers son père, souvent absent, a laissé un vide émotionnel et un besoin de validation non comblé. En conséquence, il s'est souvent mis en avant pour compenser ce manque d'attention paternelle. Son intérêt pour le sport et la nature, en opposition à l'école, suggère un désir de liberté et d'évasion face à des environnements perçus comme contraignants ou dépourvus de sens pour lui. Cependant, l'absence d'organisation apparente dans sa vie reflète un désordre intérieur et un manque de structure psychique. L'expert souligne également le lien entre l'idéalisation de son père et la recherche d'une idéologie pour combler le vide affectif et donner un sens à sa vie. Cette idéologie agit comme un substitut du rôle paternel. Ainsi, Emmanuel Rist est littéralement hanté par le nazisme, au point de faire un voyage au Tibet sur les traces du mitarien. Avec son ex-femme, il aura un garçon qu'il va baptiser Mao. Son avant-bras présente des tatouages ésotériques. Sa passion pour le sport est intimement liée au précepte de l'Übermensch, l'homme qui doit prendre conscience de son corps jusqu'à en avoir une maîtrise totale. Le passé familial de l'accusé est également évoqué. Son grand-père paternel a été enrôlé de force dans les rangs de l'armée allemande pendant l'occupation, rejoignant ceux que l'on a appelés les malgré nous, envoyés combattre sur le front de l'Est sous l'uniforme de la Wehrmacht. Cela fait suite à un décret nazi datant d'août 1942. Capturé par les Russes, le grand-père d'Emmanuel Rist a survécu miraculeusement à son internement dans un camp en Pologne. En revanche, pour ce qui est du grand-père maternel de l'accusé, il a résisté à la germanisation imposée en Alsace, qui interdisait l'usage du français et le port du béret. En représailles, il a été envoyé dans le camp de Schirmeck, aujourd'hui disparu, un lieu de rééducation situé près du Struthof. Profondément traumatisés par ce qu'ils ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux grands-pères ont gardé le silence auprès de leurs enfants et petits-enfants sur les événements de cette période particulièrement sensible en Alsace. Au quatrième et dernier jour du procès, la cour d'assises essaye toujours de déterminer le caractère de préméditation dans le meurtre de Mohamed. Les enquêteurs savent que le 22 mai 2001, Emmanuel Rist était en service de nuit comme vigile à l'écomusée jusqu'à 7h45. Rist prétend être resté avec ses collègues pour discuter avant de partir. Il dit être passé par le garage près du domicile de ses parents à Bergheim, une commune proche de Colmar, mais aucun témoin ne peut attester de sa présence. Il affirme ensuite être arrivé à Guldensheim uniquement l'après-midi, alors que plusieurs témoins ont aperçu sa voiture aux alentours de 11h30. Comme il n'a aucun alibi solide pour les 3 heures précédant le crime, l'avocat général François Jurdet en déduit qu'il a parcouru la région à la recherche d'une cible qu'il a finalement trouvée en la personne du marchand de tapis. Sa présence avérée dans la rue du château avant l'arrivée de Mohamed et l'arme du crime qu'il portait sur lui sont deux éléments suffisants pour établir une préméditation. Pour appuyer ses affirmations, l'avocat revient également sur le tract affiché à la mairie d'Offenbach le 17 mai 2001. Le texte n'est pas un appel direct au meurtre, mais il le suggère. Dès le 17 mai, Rist était à la recherche d'une cible à éliminer, selon l'avocat général. Dans le box, l'accusé maintient sa version. Il dit avoir rédigé ce tract sans intention d'homicide, et selon lui, la mort de Mohamed Mazzini, à qui il ne voulait qu'infliger une humiliation, n'a rien à voir avec cela. Au terme du procès, l'avocat général demande une peine de 30 ans de réclusion, assortie de la période maximale de sûreté, soit 22 ans. Après la plaidoirie de la défense, la cour et les jurés se retirent pour délibérer. Ils condamnent Emmanuel Rist à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Mohamed Mazzini, le marchand de tapis de 46 ans et père de 5 enfants. Par une décision spéciale, adoptée à la majorité absolue, la période de sûreté est fixée à 13 ans. De plus, la demande de confusion de cette peine avec celle de 10 ans de réclusion criminelle, prononcée le 13 mars 2009 par la cour d'assises du Haut-Rhin, est rejetée. En 2013, Emmanuel Rist est jugé une dernière fois pour le vol de 17 tableaux au musée Unterlinden de Colmar. En 2020, il poursuit ses études d'art par correspondance à la Sorbonne depuis la maison centrale d'Ensisheim. La libération théorique d'Emmanuel Rist est fixée au 12 décembre 2029, a indiqué dans la presse son avocat, qui espère néanmoins obtenir une diminution de la peine de sûreté.